Nous allons dans l'évangile de Jean au chapitre 20. Évangile de Jean chapitre 20. À partir du verset 24. Évangile de Jean chapitre 20. À partir du verset 24. Thomas, appelé Didyme, l'un des douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule. » Mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Voilà. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. C'est dommage. Jésus n'a pas refusé d'exaucer le vœu de Thomas. Il l'a fait. Il s'est montré à lui et il lui a dit, mais tu peux toucher maintenant. Mettre ton doigt dans mes mains. Vous savez, c'était quand même une exigence exagérée. De la part de Thomas, il faut que, il dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, quand même, donc quelqu'un qui ressuscite, il doit ressusciter avec les cicatrices. Mais heureusement, vous savez, heureusement, c'était aussi la volonté de Dieu que Jésus ressuscite avec la marque des clous, parce que la marque des clous, c'était le symbole de sa victoire. C'était sa gloire. Mais est-ce que nous, quand on va ressusciter avec nos blessures? Pas du tout. Mais Jésus est le seul à ressusciter avec les traces de l'œuvre de la croix parce que c'est le trophée, c'est ses marques de victoire, de champion. Et du coup, le désir de Thomas a coïncidé avec le plan de Dieu de laisser les marques de clous dans les mains de Jésus et dans son côté. Mais si c'était pas le cas, bien-aimés, nous allons parler du fait qu'il faut croire sans exiger de voir. Je ne suis pas en train de parler de non-chrétiens, même si, oui, d'une certaine manière, je parle à tout le monde. Je parle à ceux qui ont connu le Seigneur et qui continuent à exiger, avant d'avancer dans une étape, avant de faire quoi que ce soit, ils veulent toujours être rassurés chaque jour par un signe, par des mouvements. Quand on dit être rassuré par un signe, par des mouvements, c'est dans toute chose, quand ils ont prié, ils veulent qu'il y ait un signe que Dieu les a exaucés. Alors que Dieu dit que lorsque nous demandons, il exauce. Il faut croire à ce que Dieu a dit. Mais aujourd'hui, il y a toute une génération de chrétiens qui ne croient que quand ils ont vu. Et ils sont devenus quoi? Ils sont devenus la proie du diable. Parce que le diable est très fort pour montrer les choses, pour impressionner par la vue. Il est très fort et c'est comme ça qu'il manipule les chrétiens. À chaque fois, on leur montre quelque chose et ils suivent. Oh, Dieu veut que l'on croie. Jésus lui a dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Ce n'est pas bien, Thomas. Ta foi ne doit pas dépendre de chaque de signes. Ta foi doit dépendre de la révélation que je t'ai faite. Comment je me suis révélé à toi? Est-ce que tu avais saisi que j'étais le Messie? Qui j'étais? C'est ça le plus important. Bien-aimés, nous ne sommes pas en train de dire que Dieu ne se fait pas voir et qu'il ne fait pas des choses, qu'il ne donne pas des signes. Mais oui, mais selon son ses objectifs et selon son plan. Mais nous n'avons pas besoin pour fonctionner que tout le temps nous ayons des signes. C'est ce que nous sommes en train de dire. Ça ne doit pas être notre fonctionnement. C'est ce que Jésus dit. Mais heureux, heureux, ceux qui ont cru, ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Et qui va dire aussi la même phrase? L'apôtre Pierre. Parce qu'il y a beaucoup de versions, on ne peut pas lire tout. Mais dans 1 Pierre, l'apôtre Paul le dit, vous êtes heureux. Il parle de nous. Nous qui avons cru en Jésus après sa mort. Il dit, vous êtes heureux. Vous qui avez cru en lui sans le voir. C'est votre gloire. Vous avez cru en lui sans le voir. Mais est-ce que ça veut dire que Jésus ne s'est pas révélé à nous? Il s'est révélé à nous. Et c'est cette révélation qui a fait qu'on a cru en lui. Mais maintenant qu'on a cru en lui, on ne doit pas chercher à voir pour continuer. Nous avons cru, nous devons fonctionner avec ce que nous recevons dans sa parole. Le vrai combat du chrétien, c'est le combat de l'invisibilité de Dieu. C'est le vrai combat. C'est même le combat de l'homme. Parce que l'apôtre Pierre dit, vous êtes heureux vous qui avez cru en lui sans le voir. Donc nous qui avons entendu la parole et nous avons cru. Et beaucoup d'hommes ne veulent pas recevoir la révélation et croire. Ils veulent voir, mais malgré le fait qu'ils voient, ils ne croient toujours pas. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça vient de la révélation de Dieu, ça vient de la parole de Dieu. Comment Dieu se révèle à moi? C'est la parole de Dieu, la révélation de Dieu. Certains miracles sont des enseignements en même temps. C'est pas seulement un miracle. Donc quand Jésus dit à Pierre, jette le filet, alors que pendant toute la nuit, Pierre n'a pas eu de poisson, quand il lui dit jette le filet et qu'il prend des poissons en grande quantité, c'est une révélation. Il y a un miracle, mais il y a aussi une révélation. C'est que celui qui est en face de moi, il est le Créateur. Il a pu créer des poissons en un instant. C'est lui le Créateur. Quand Jésus dit à la tempête, silence, tais-toi, c'est un miracle, mais c'est aussi une révélation. C'est pourquoi dans la Bible, on appelle les miracles aussi des signes. Un signe, ça veut dire c'est un message à travers un événement. On te donne un message. Par exemple, quand on parle le langage des signes, ça veut dire tout simplement qu'on ne parle pas avec la bouche, mais on donne des messages dans le langage des signes pour les sourds muets. C'est des messages. Les miracles peuvent être aussi des messages. Mais quand tu ne saisis pas le message, tu t'attardes sur la vue, tu tapes à côté. La foi viendra du message que tu as reçu à travers la révélation divine. Aujourd'hui, comme Jésus a dit dans Luc 18, il n'y a plus la foi. Est-ce qu'il y aura la foi quand il reviendra? Parce que la foi est en contradiction avec la vue. Vous allez me dire, mais oui, mais comment on va savoir qu'il existe? Comment on va savoir? Par révélation. Il va se révéler à nous. Et on va le savoir. Cette révélation, c'est par sa parole. Mais, comme je l'ai dit, ça peut être par des signes. Ça peut être aussi par une vision. Mais il y a un message. C'est le message qui compte. C'est la parole qui compte dans le signe, dans la vision. On va recevoir la révélation du Seigneur. Et quand on a reçu la révélation du Seigneur, gloire à Dieu. À partir de là, nous fonctionnons avec la révélation du Seigneur, avec la parole du Seigneur. Abraham n'avait jamais vu Dieu quand il a accepté d'écouter sa voix, de quitter sa famille. Il a reçu une révélation, quelque chose qui te dit clairement que tu as affaire au Dieu qui a fait les cieux et la terre. Tu le sais et tu commences à fonctionner. Il n'avait jamais vu Dieu. Quand on lui demande de tuer son fils, il n'avait jamais vu ce Dieu-là. Mais il lui faisait confiance parce qu'il s'est révélé à lui tout le long de sa vie, continue à se révéler à lui. Il sait en qui il a cru, il sait à qui il a affaire. C'est la révélation de Dieu qui compte pour recevoir la foi et fonctionner. Maintenant, nous nous exigeons aujourd'hui de voir pour croire. Un petit signe par-ci, un petit signe par-là, et finalement, on tourne en rond, on n'a toujours pas la foi. Or, Dieu veut nous élever à un haut niveau, le niveau de l'invisible, pouvoir décider sans voir, pouvoir prendre des directions parce qu'on a reçu la révélation de Dieu et non pas parce qu'on a vu des signes positifs. Il y a des gens qui nous font des choses que lorsqu'ils voient des signes positifs. Non, on doit faire les choses parce que Dieu nous l'a dit. Mais est-ce que je suis en train de dire que Dieu ne donne jamais des signes? Il peut en donner, mais il fait les choses selon sa volonté, en sa manière. Lorsque nous nous intégrons ça dans notre fonctionnement comme quelque chose de normal qu'il faut à chaque fois des signes, on se trompe de Dieu. Jésus lui a dit, tu te trompes Thomas, tu te trompes. Je t'ai exaucé, mais sache que tu as fait une erreur. Vaut mieux croire sans voir. C'est ça qui fait de vous de vrais disciples. C'est ça qui fait de vous des vrais chrétiens, parce que vous avez la foi. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. C'est ça, bien-aimé. Imaginez que votre enfant vous fasse tout le temps le chantage. Mais tu m'as crié hier, tu m'as crié dessus hier. Je ne suis pas sûr que tu es mon père. Tu as refusé de me donner l'argent pour telle chose. Je ne suis pas sûr que tu es mon père. Donc il faut à chaque fois lui acheter quelque chose, lui faire un bisou, lui donner un bonbon pour le prouver à chaque fois que tu es son père. Mais ça va finir quand? Ça ne va jamais finir. Une fois pour toutes, quand cet enfant-là a su que tu étais son père, il a vu la ressemblance, il a vu des signes. Ça suffit. Maintenant, il fonctionne en tant que ton fils. Pourquoi nous voulons toujours des preuves, des signes, des preuves et des signes pour continuer à croire que Dieu est là, qu'il agit, qu'il exauce les prières? On veut toujours, on veut qu'il y ait du mouvement, on veut qu'il y ait de l'agitation, on veut que quelqu'un commence à entrer en transe et prophétise. Là, on dit, ah, mais Dieu était là. Mais on veut pas croire quand lui dit, lorsque les frères et sœurs sont réunis, qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. On est ensemble, mais on ne croit pas qu'il y a la bénédiction, parce qu'on n'a pas vu du mouvement. Et Dieu dit, mais est-ce que je trouverai encore la foi sur la terre? Les gens se sont fait avoir par la télévision, par le visible, par la technologie, par les fausses manifestations du Saint-Esprit. Ils ont lâché Dieu pour s'attacher aux manifestations, pour s'attacher au visible. Je ne suis pas contre les dons du Saint-Esprit. Au contraire, je les aime. Mais je dis tout simplement, heureux ceux qui croient sans voir. C'est ça la volonté de Dieu. La foi ne va pas avec le visible. Et l'apôtre Paul nous démontre ça très bien dans l'épître aux Romains. Il nous démontre ça très bien dans l'épître aux Hébreux. Il dit, mais si on voyait, ça serait plus la foi. La foi, ça marche avec la révélation. J'ai reçu la révélation de Dieu. Dieu m'a parlé. J'ai maintenant la foi. Il a déposé la foi en moi par sa révélation. Maintenant que je sais, je crois. Maintenant que je crois, j'avance. Et je continue à croire à toute la révélation de Dieu. C'est comme ça que nous devons fonctionner. Notre vrai combat, c'est celui-là, bien-aimé. La seule fois que Joseph a tremblé, s'est écarté un peu en demandant une aide extérieure, ça n'a pas marché. Vous vous souvenez, Joseph, c'est un type de Christ. Ça fait partie des gens qui sont comme Jésus, mais qui sont venus avant. Dans la Bible, on ne parle d'aucun péché de Joseph. C'est un type de Christ. C'est un sauveur pour son peuple et pour le monde. L'Égypte représente le monde. Joseph a sauvé son peuple, Israël. Il a sauvé aussi l'Égypte. Il a sauvé. Donc c'est un type de Christ. Christ est venu sauver Israël et le monde. Joseph a épousé une païenne. Christ, après avoir été rejeté par ses frères, nous a épousé, nous, l'Église, les gentils, les païens. C'est un type de Christ, puisqu'on ne cite aucun péché de lui. C'est un type de Christ, parce qu'il était le fils. Les gens disent, oh, mais Jacob a fait une erreur en aimant Joseph, mais bien aimé, au baptême de Jésus, le Seigneur a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Joseph ressemble à celui-là. C'est pareil, Jacob avait mis toute son affection sur Joseph. C'est un type de Christ. Les gens ne lisent pas toute la Bible. Ils prennent une partie et ils polémiquent en fonction de nos connaissances humaines. Mais si vous regardez par rapport à la Bible, Joseph est un type de Christ. C'est pourquoi Jacob l'a aimé comme Dieu a aimé son fils unique, Jésus. Et Joseph était le type de Christ. Et Joseph savait. Dieu s'était révélé à lui qu'il sera le roi de ses frères, de toute sa famille. Et Joseph a attendu. Il a cru. Il est resté calme. On l'a frappé. On l'a fait descendre dans le puits. On l'a vendu comme esclave. Il a été emprisonné. À un moment donné, il a voulu toucher. Il a dit à la personne qui était libérée de la prison par Pharaon suite à l'explication du songe de Joseph, il dit, quand tu iras voir Pharaon, parle-lui de moi. Il a voulu toucher. Mais qu'est-ce qui est écrit dans la parole? Cet homme-là ne s'est plus souvenu de Joseph. Dieu voulait que Joseph continue à croire en lui. Nous voulons toucher. Et c'est comme ça que on se fait avoir par toutes sortes d'escrocs. Nous aimons qu'on nous dise, Dieu m'a montré telle chose sur toi. Et ensuite la personne va te dire, mais il faut penser à l'offrande pour Dieu. Et comme on a touché, on nous a dit quelque chose de concret. Dieu m'a montré quelque chose sur toi. On aime ça. Et on se fait avoir, au lieu de suivre la parole de Dieu. Est-ce que je dis que Dieu ne montre pas les choses? Il montre. Mais ce n'est pas ça qui doit nous intéresser. Ce qui doit nous intéresser, c'est Dieu lui-même, sa parole. S'il montre, il montre. S'il ne montre pas, nous suivons tout ce qu'il a déjà montré dans sa parole et nous continuons à marcher. Bien-aimé, est-ce que Thomas avait besoin de voir? Thomas n'a-t-il pas vu la tempête calmer? Quand Jésus a dit « Silence, tais-toi », eux tous, ils étaient étonnés, non? Ils se sont dit « Mais qui est celui-ci qui peut même dire « Arrêter la tempête et les vagues » ?» Qui est celui-ci? Sous-entendu, donc ça ne peut être que Dieu, parce qu'on ne voit pas quel homme ça peut être. Quel homme peut commander au vent? Donc ça ne peut être que Dieu. Thomas, n'a-t-il pas vu Jésus ressusciter Lazare? Qui était mort, cela faisait 4 jours. N'a-t-il pas vu ça? Il a vu. C'était la révélation de Jésus pour eux. À travers tous ces miracles, Jésus s'est révélé à eux. Il a reçu la révélation, Thomas. Jésus n'a-t-il pas dit qu'il ressusciterait le 3e jour? Il a dit combien de fois? 3 fois. Je vais souffrir, on va me crucifier, mais je vais ressusciter le 3e jour. Il a dit 3 fois. Donc, allez relire ça dans la Bible. 3 fois. Et Thomas avait reçu la révélation. Qu'est-ce que Thomas n'avait pas reçu? Mais il a voulu encore un signe pour être bien, bien sûr. Mais jusqu'à quand? Comment tu vas fonctionner? Quel est notre appel? Notre appel, c'est de vaincre le visible par l'invisible. C'est ça l'appel des chrétiens. Vous ne voyez pas que nous sommes différents des autres religions. Dans l'islam, eux-mêmes, ils vont taper les gens, ils vont même battre les gens, ils vont construire les gens. Eux-mêmes, au fait, c'est comme si c'était eux qui défendaient leur Dieu. Nous sommes les seuls que Dieu défend. C'est Dieu qui nous défend. C'est Dieu qui nous justifie. De sorte que nous n'avons plus besoin du visible pour fonctionner. Nous avons besoin du cœur, de la foi dans le cœur pour fonctionner. Mais quand un chrétien sort de ce schéma-là, il se perd. Ce n'est pas la vie chrétienne. C'est le piège du diable. Revenons à la foi. Thomas a reçu toute la révélation. Il a reçu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a été choqué que l'on attrape Jésus. Il a été choqué. Jésus, tout le temps, s'en sortait quand on voulait l'attraper. Il s'en sortait. Et là, on l'attrape. On le maltraite. Il fait rien. Thomas a été choqué par ça. Thomas, choqué par cela, il est retourné quoi? À quoi? Il est retourné au fonctionnement humain normal, qui veut des signes, qui veut des garanties. Même aujourd'hui, dans toutes les opérations que nous faisons dans le monde, il y a des garanties, des assurances, des béquilles qui vont t'aider à avancer dans une sorte de sécurité que tu ne te trompes pas. Mais avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Il s'est révélé à nous, il veut qu'on croie et qu'on avance. Et tout le long du chemin, lorsque un signe est vraiment nécessaire, il le donne parce qu'il connaît notre cœur plus que nous. Lorsqu'un signe est vraiment nécessaire, il nous le donne. Vous savez combien de fois moi j'ai demandé des signes pour beaucoup de choses? On m'a toujours répondu, tu sais que j'existe, arrête ces histoires-là. Mais je vois autour de moi, il y a des chrétiens qui demandent des signes, on leur donne. Moi, quand je demande un signe, 5 minutes après, on me dit, tu sais que j'existe, arrête tous tes trucs-là. Donc, tu veux juste être conforté comme tout le monde, mais chacun a sa voix. Toi, tu sais que moi, j'existe. Ça suffit pour toi. Continue ton fonctionnement. Au fait, on marche en fonction de la révélation. Dieu sait qu'il il s'est révélé à moi. Il sait que je le sais. Quand je demande le signe, je le demande pour copier tout le monde, pour se sentir bien charnellement. Il le sait et il ne va pas donner. Il sait que dans ton cœur, tu crois, c'est bon. Mais celui vraiment qui en a besoin, Dieu lui donnera aussi le signe. Mais il nous dit clairement, heureux ceux qui ont cru sans voir. Il nous montre la ligne de conduite. Quand il te donne tout le temps des signes aussi comme ça, est-ce que ce n'est pas que tu aies doute? Voilà. Et que dans sa bonté, il est là tout le temps pour te donner des signes. Mais il te donne le fonctionnement, c'est que tu dois marcher. Tu dois croire. Et vous savez, le verset que je veux lire, qui va suivre là, mais ce n'était même pas prévu de lire ça, mais je me rends compte que c'est collé au passage qui a été prévu aujourd'hui, c'est collé, c'est la suite. J'ai souvent cité ce passage-là. Eh bien, lisons-le, c'est la suite, c'est le verset 30 à 31. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas décrits dans ce livre, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Voilà, qu'est-ce qui est dit? Est-ce que nous sommes contre les miracles? Non! Mais les miracles ont un but. Apporter un enseignement. Quel est cet enseignement? C'est que Jésus est le Fils de Dieu. Et maintenant, quand tu sais qu'il est le Fils de Dieu, il t'est demandé de quoi? De croire. Mais ces choses ont été écrites. Est-ce que nous, on a vécu les mêmes choses que les apôtres? Non. ils les ont vécues pour que ça soit écrit et que nous, on reçoive Jésus-Christ par l'écoute de ces récits-là. Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Amen. Qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc, quand tu crois, tu reçois la vie. Et tu deviens une nouvelle personne. Qui maintenant doit fonctionner par cette révélation-là, par cette nouvelle vie. Jésus est en moi, il est le Fils de Dieu, il est mon sauveur, il est mon berger, il est avec moi à tout moment, il m'écoute, il m'a demandé pour toutes choses de prier Papa en son nom, et le Père, il va donner parce que Jésus a été son Fils parfait. Il est mort pour nous à la croix. À cause de ça, le Père va donner. Jésus m'a expliqué tout ça. Maintenant, je dois fonctionner. Maintenant qu'il faut fonctionner, je dis, mais Seigneur, je veux un signe. Il dit, mais finalement, est-ce que les signes que j'ai fait avant n'étaient pas suffisants? N'as-tu pas reçu la révélation de qui je suis? Maintenant que tu as reçu la révélation de qui je suis, profites-en. Fonctionne avec cette révélation. Mais nous ne le voulons pas. Nous continuons à bricoler une vie chrétienne sans Dieu. Oui, je dis bien une vie chrétienne sans Dieu. Une vie chrétienne qui dépend des manifestations extérieures, des paramètres extérieurs. On a vu Joseph, quand il a voulu utiliser un paramètre extérieur à Dieu, ça n'a pas marché. Cet homme l'a oublié. Il fallait qu'il s'attende au Seigneur. On ne veut plus s'attendre au Seigneur. On ne veut plus prier vraiment. On prie comme une méthode pour toucher Dieu. On ne prie pas dans une logique d'assurance que le Seigneur nous a promis. Alors je vais prier jusqu'à ce qu'il me donne. Non, on prie parce qu'il faut beaucoup prier pour avoir les choses. Donc c'est comme une méthode. C'est comme si quand on prie comme ça, on se dit, j'ai fait quelque chose. Maintenant, j'attends. Oh, c'est pas ça. La vraie prière, c'est quoi? J'entre en communion à Dieu, je lui parle, je crie, je me lamente, je le loue, je prie jusqu'à ce que, Philippiens 4, 6 à 7, jusqu'à ce que je sois en phase avec lui. Qui a fait cette prière-là? La maman de Samuel. Elle a prié, elle était venue pour son histoire d'enfant. Elle a prié. Elle a réclamé les bienfaits de Dieu. Elle a réclamé la manifestation de la puissance de Dieu jusqu'à ce qu'elle soit en phase avec Dieu. Et quand elle a été en phase avec Dieu, sa prière a changé. C'est devenu quoi? Cet enfant-là que je te le demande, je te le redonnerai. C'est ça le but de la prière. Nous mettre en phase avec Dieu. Beaucoup utilisent la prière comme un moyen magique. Non! Ce n'est pas un moyen magique, j'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup jeûné. Non, la prière, c'est le moyen de nous mettre en face, en communion avec Dieu. Et quand tu es dans cette communion-là, tout devient simple pour toi. Tout devient simple. Tu peux maintenant faire les vraies prières parce que tu es en phase avec lui, tu pries ensemble avec lui. Ce n'est plus toi qui prie, vous priez ensemble. C'est pas moi qui le dis. Ésaïe 43, 26 le dit. Viens, Dieu dit, on va plaider ensemble. Mais au début, nous commençons avec nos problèmes, à plaider, à parler, mais à faire appel à quoi? À la révélation qu'on a reçue. Mais beaucoup prient aujourd'hui comme si ils se fabriquaient par la prière un moyen de faire un chantage à Dieu. Non! Je prie parce que Dieu s'est révélé à moi comme le Tout-Puissant, comme celui qui m'aime, comme celui qui est mon Père. À partir de là, je suis en droit, puisque je suis malade, de lui en parler. Je suis en droit parce que je veux voir l'Inde, la Chine être sauvée. Je suis en droit de lui en parler. Et pendant que je prie avec lui, je parle avec lui, tant que mon cœur est assoiffé, je continue à parler avec lui. Je continue à plaider avec lui. jusqu'à ce que j'entre en phase avec lui, je suis dans la paix. Et c'est là que les prières qui viennent de son esprit commencent à couler maintenant. Et quand c'est comme ça, les choses changent toutes seules par la puissance du Seigneur, par sa puissance. La prière, arrêtons de l'utiliser comme un moyen magique. C'est le moyen d'entrer dans la présence de Dieu. C'est le moyen de vivre notre foi. C'est-à-dire, il m'a dit ceci, il s'est révélé à moi de telle manière, eh bien, je lui rappelle ça. Ésaïe 43, 26, il dit, rappelle-moi. Je lui rappelle ça. On en discute. Qu'il m'explique pourquoi il ne fait pas. On en discute. Jusqu'à ce qu'on est en phase, on se dit, ah, maintenant je comprends pourquoi il n'a pas fait. Ah, maintenant je comprends quel était son objectif. Mais parce que nous avons reçu une révélation de lui et que nous ne voulons pas laisser cette révélation de côté. On s'en sert pour prier, pour dire, mais oui, mais c'est où la manifestation de cette révélation? Mais tous ceux qui disent, ah oui, mais il manque ceci, il manque cela. Si on avait ceci, si on avait cela, on servirait mieux le Seigneur. Et ils sont dans le même schéma que Thomas. Ils veulent d'abord voir pour continuer à croire. Le Seigneur dit, heureux ceux qui continuent à croire sans qu'ils voient. Ce sont eux vraiment qui entrent dans mon plan. Ce sont eux les véritables serviteurs de Dieu. Ce sont eux les véritables nés de nouveau. Des gens qui ont reçu la vie nouvelle et qui fonctionnent par la foi et non pas par la vue. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans 2 Corinthiens 5, 7. Il est écrit dans 2 Corinthiens 5, 7. 2 Corinthiens 5, 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Je peux commencer au verset 4. Car tandis que nous sommes dans cette tente, c'est-à-dire notre corps, nous gémissons. Nous gémissons sur la terre. Il y a beaucoup d'imprévus, beaucoup d'accidents, beaucoup de souffrances, de maladies parfois. Nous gémissons tandis que nous sommes dans cette tente. Accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Nous voulons que ce qui est mortel soit englouti par la vie du ciel. Et autrement dit, Dieu permet cet accablement de notre chair afin que nous nous intéressions à la vie céleste. Voilà l'explication que Paul reçoit dans la prière. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu. Et il nous a donné quoi ? Les arts de l'esprit. Les arts, c'est quand on donne une avance. Il nous a donné une avance, un signe de lui, une fois pour toutes, c'est son Esprit Saint. Il nous a donné ça. Maintenant qu'on a l'avance, on sait qu'il nous donnera la totalité de la somme, la gloire éternelle. On a une avance. La révélation de Dieu nous a apporté le Saint-Esprit en nous. À partir de là, nous fonctionnons maintenant désormais. Il est écrit au verset 6, nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur physiquement, car nous marchons par la foi et non par la vue. Donc, plus nous cherchons les choses qui apaisent le corps, nous allons nous éloigner du Seigneur. Plus nous demeurons dans le corps, nous fonctionnons en fonction des signes visibles. Comme Thomas a dit, je vais toucher. Il faut que mon cœur voie le trou dans les mains. Plus on fonctionne comme ça, on demeure loin du Seigneur. Voilà ce que disent les Écritures. Car, qu'est-ce que nous devons faire? Marcher par la foi et non par la vue. L'apôtre Jean nous supplie dans Jean 20, 30 à 31. Il dit, le miracle, il en a fait beaucoup. Mais le peu qui ont été transcrits, c'est pour nous amener à croire qu'il est le Fils de Dieu. Et quand tu crois qu'il est le Fils de Dieu, tu as la vie. Tu deviens toi aussi un citoyen du ciel. Tu deviens toi aussi un fils de Dieu avec les attributions de fils de Dieu. Tu peux commander à la nature, tu peux commander aux circonstances, aux événements, mais par la foi et non pas par des béquilles visibles, des béquilles humaines ou des béquilles religieuses. Voilà. Tu te dis, j'ai prié 5 jours. C'est ça ma force. Ah non, c'est une béquille religieuse. Je me souviens d'une musulmane qui était à 30 ans, elle voulait commencer la belle vie parce qu'elle était déchargée de la responsabilité de ses frères qui avaient grandi. On lui diagnostique le cancer des os. Ses os étaient en train de s'effriter. Et il y avait 2 choses, un autre cancer, 2 cancers à la fois. Et elle s'est souvenue qu'elle avait une connaissance chrétienne avec qui elle avait souvent des luttes religieuses. Et elle ne s'était pas vue, cela faisait 2 ans. Elle s'est dit, ah, peut-être que son Dieu à lui peut faire quelque chose pour moi, parce que elle ne se l'est pas cachée, elle s'est énervée contre son propre Dieu à lui de l'islam. Elle a dit, mais comment il peut me faire ça? Maintenant que j'ai 30 ans, que je vais commencer la vie, alors que je l'ai toujours servi, maintenant j'attrape ces maladies-là. Et quand elle arrive chez la chrétienne, elle dit à la chrétienne, je suis venue te voir. Déjà plutôt quand elle s'est dit que je dois l'appeler, ça faisait 2 ans qu'elle se voyait plus. Son téléphone à elle de la maison sonne. À l'époque, il n'y avait pas les téléphones portables. Le téléphone de la maison sonne. C'est son frère qui vient lui dire, mais c'est ton amie chrétienne là qui t'appelle. Alors qu'elle, elle pensait l'appeler. Elle s'est dit, mais c'est pas possible. Et quand elle prend le téléphone, elle dit, mais moi aussi je voulais t'appeler. La chrétienne dit, oui, je sais. Mais je veux te voir. Mais il n'y a pas de problème, viens tel jour. Elle arrive. Elle lui dit, mais tu peux pas savoir, je suis mourante, suis-je en train de mourir? Dans quelques mois, c'est fini pour moi. On m'a diagnostiqué ceci, cela, tous mes os sont morts. Et la chrétienne dit, tu veux boire du thé? Mais attends, je t'explique les graves problèmes, toi tu me proposes du thé. La chrétienne dit, voilà, je te fais du thé. Bon, on va prier alors. Et on prie. La chrétienne dit ceci, Père, je te remercie d'avoir ramené mon ami à ta maison. Et je sais que tu vas la sauver. Merci Seigneur de la sauver. Au nom de Jésus. Amen. Alors, elle s'est dit en elle-même, ça c'est quoi ça? C'est quelle prière d'une minute pour un cas grave comme moi? Voilà la logique que nous avons dans la chair. Voilà, un cas grave comme ça, elle prie 1 minute. C'est les béquilles du visible. On veut quelque chose de visible. Je ne suis pas en train d'encourager les prières courtes. Je suis en train d'encourager la communication avec Dieu. La communication avec Dieu. Mais si Dieu te calme en 1 minute, pourquoi tu veux, pour la même chose, prier 10 heures, alors que lui t'a dit c'est bon? C'est Dieu qui doit nous guider dans la prière. Il a dit c'est bon. On a prié, elle s'est dit dans son cœur. Et quand elle a voulu discuter, la chrétienne dit, mais je suis occupée, est-ce qu'on peut se voir un autre jour? Donc elle sort de là en colère. Comment elle peut prier 1 minute pour un cas si grave? C'est quelle prière ça? Et le lendemain, elle avait des examens. Ou le lendemain ou quelques jours après, elle avait des examens à l'hôpital. Elle est partie le matin. On l'a gardée jusqu'à midi. Et puis elle ne comprend pas, on la garde jusqu'au soir. Et puis on l'appelle à côté. On dit, écoutez, voyez vos radios, vos imageries, vos images d'il y a quelques semaines. Elle regarde comment ses os étaient déjà abîmés, ça se voyait quoi. Elle dit, mais regardez maintenant ce qu'on a fait ce matin. Elle a vu que les os étaient réparés, c'était bon. Alors, ils lui disent, on n'a pas cru que c'était possible, c'est pourquoi on vous a retenu jusque toute la journée pour refaire les examens. Regardez ce qu'on a vu à midi, pareil. Les eaux en parfait état. Regardez ce qu'on a fait à 16 heures, pareil. Les eaux en parfait état. Et on lui dit, mais est-ce que vous avez reçu des médicaments de la part de quelqu'un? Il y a un hôpital qui vous a soigné. Il a dit non. En ce moment-là, il se souvient de la prière de son ami. Il dit, mais c'est ça. Elle a quitté le médecin. Elle est partie chercher le téléphone. Elle a appelé son ami chrétien. Il dit, mais je suis guéri. L'autre dit, oui, je sais. Bien-aimé, nous ne marchons pas selon la vue, mais selon la foi. Même si les médecins disent c'est irréversible, c'est leur problème. Nous ne marchons pas selon la vue, mais selon la foi. Est-ce à dire qu'un chrétien ne peut jamais mourir de maladie? Mais Élisée est mort de maladie, je ne suis pas en train de dire ça. Paul a laissé Trophime malade à Milet. Je ne suis pas en train de dire ça, je dis tout simplement, ça ne nous regarde pas les signes visibles. Ce qui nous regarde, c'est la communion avec Dieu. Chercher sa face, demander la guérison jusqu'à ce que lui nous parle et nous dise qu'est-ce qu'il veut de nous. Bref, vivre la vie du ciel. Vivre la vie du ciel. Dieu attend de nous que sur terre, comme Paul est en train de dire, il dit tant que nous sommes dans le corps, nous demeurons loin du Seigneur. Tant que nous fonctionnons selon le système du corps, il veut que, ayant un corps, nous fonctionnons en esprit. Tout ne va pas être résolu, mais moi, je serai au-dessus de tout. Amen. Par l'Esprit de Dieu, je serai au-dessus de tout. Dieu est tout-puissant. Que je garde ça dans mon cœur, même si rien ne marche visiblement, que je ne sois pas comme Thomas, en train de vouloir un signe pour continuer à croire. Mais que je me souvienne de la révélation de Dieu dans ma vie, de la révélation de Dieu dans sa parole, pour dire, je crois et je veux me battre jusqu'à ce que ce que je crois s'accomplisse dans la prière. Parce que j'y crois. Parce que j'y crois, je ne regarde pas au visible. Parce que moi, je crois en Dieu, qu'il est tout puissant, qu'il ressuscite les morts. Il a dit, il a parlé et les arbres ont été créés. Il a parlé et les cieux et la terre ont été créés. Il peut le faire encore aujourd'hui. C'est pourquoi Jésus, Jean nous dit dans Jean 20, 30 à 31, Jésus a fait beaucoup de miracles qui ont montré qu'il peut tout faire. Maintenant, à vous de croire et de fonctionner avec cela. Mais ces gens-là ont été en prison, les gens. Les Paul, ils ont connu la prison. Mais ils n'ont pas perdu la conception de la toute-puissance de Dieu dans leur cœur. C'est ça la vie de l'esprit. L'apôtre Paul dit, nous sommes ébranlés, non pas abattus, parce qu'ils marchaient selon l'Esprit de Dieu, et non pas selon le visible. De telle sorte que vous connaissez l'épisode de Actes des Apôtres, chapitre 16. Il était emprisonné dans la partie intérieure, donc la partie la plus difficile de la prison, avec les ceps aux pieds, des gros morceaux de bois lourd aux pieds pour qu'il ne bouge pas. Emprisonné là-bas. Mais il a commencé à louer Dieu. Comment expliquer ça? Est-ce que, bien aimé, qu'on ne confonde pas les choses, je ne suis pas en train de dire que la tristesse ne peut pas nous atteindre, ni la souffrance nous fatiguer. Ça peut arriver, mais lorsque nous creusons, nous luttons dans la prière, la joie du Seigneur remonte. La vie de l'esprit remonte et elle se met au-dessus du corps. La vie de l'esprit n'a pas peur du corps. C'est plus fort que le corps. Et l'apôtre Paul et Silas, ils ont commencé à louer Dieu. Et en louant Dieu, la puissance du Saint-Esprit est venue casser les murs de la prison, leurs chaînes, les chaînes de tous les prisonniers. Nous voyons la puissance qui se dégage de quelqu'un qui marche en esprit. Pas quelqu'un qui se fabrique des faux témoignages visibles. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens se trompent. Pourquoi ? Chacun a des témoignages visibles et il croit que parce qu'il a des témoignages visibles, que Dieu est avec lui. Non, Dieu est avec nous en esprit Et le Saint-Esprit nous le convainc qu'il est avec nous. Ce n'est pas par un truc visible. Sinon, les païens se croiraient aussi de Dieu. Vous savez, combien de musulmans sont riches? Combien de musulmans sont sauvés dans les hôpitaux de leurs maladies, des cancers, de beaucoup de choses? Est-ce que ça veut dire qu'ils sont dans la vérité? Non! La vérité, c'est la parole de Dieu. Et Dieu nous le confirme dans le cœur. Vous savez combien de gens disent que Dieu est avec moi? Parce que vous voyez, je suis maintenant millionnaire. Est-ce que c'est ça la vérité? Ce n'est pas ça la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu, la Bible. Mais pourquoi ces gens-là sont convaincus que Dieu est avec eux? À cause des signes visibles. Mais le vrai enfant de Dieu est convaincu parce que Dieu a attesté ça dans son cœur. Lisons Psaume 51, verset 8. Psaume 51, verset 8. Vous savez, un jour, Jérémie a dit aux enfants d'Israël, vous êtes mauvais. Dans Jérémie 44, je crois, vous êtes des idolâtres. Et Dieu va vous punir. Vous adorez la reine du ciel. Vous lui faites des gâteaux. Ils ont répondu vertement à Jérémie. Et alors, depuis qu'on adore la reine du ciel, il y a les pluies, hein? La pluie tombe, on a des bonnes récoltes. On a adoré l'Éternel, ton Dieu, on n'a rien vu. Ah! Les gens qui sont dans l'erreur, bien-aimés, ne vous empêtent pas. Ils peuvent ressentir une force qui leur fait croire qu'ils sont dans la vérité. Au fait, c'est quoi? C'est la force qui fait plaisir au corps, à la chair. C'est-à-dire des choses, des bonnes nouvelles. Mais regardons la fin de leur vie. C'est toujours une fin malheureuse. Malheureuse. Mais il y a des moments où ils peuvent être bien. Mais ils sont bien, pourquoi? Parce que les voyants sont au vert. Mais ce n'est que de la mascarade. Mais quelqu'un qui est dans le Seigneur, dans la vérité, même quand les voyants sont au rouge, le Saint-Esprit lui atteste. Psaume 51, verset 8, hein, qu'est-ce qui est dit? Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. La vérité au fond du cœur. Voilà ce que Dieu veut. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Voilà notre prière de la fin. Fais naître ta sagesse au-dedans de moi. La vérité au fond du cœur. Nous devons rechercher la vérité au fond du cœur, non au travers des signes visibles. La vérité doit être au fond du cœur. Nous devons la chercher au fond du cœur. Et si elle n'y est pas, alors demandons comme David a dit donc, dans ce cas-là, fais donc pénétrer ça en moi. Demandons que la vérité soit au fond du cœur, parce que la vérité qui tient par les choses visibles, par les signes positifs, c'est une vérité qui ne tiendra pas, parce que dès qu'il viendra le problème, ça ne marchera pas. Heureux ceux qui ont cru sans voir. C'est eux les bénis de Dieu. Ils marchent dans l'invisible. C'est les grands champions de ce monde. Rien ne leur fait peur, parce qu'ils sont accrochés à l'invisible. Qu'est-ce qui est dit de cela dans Hébreux 11, 1 à 3? Hébreux 11, 1 à 3. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voilà la foi. C'est le contraire de voir. Donc tu crois alors que tu ne vois pas. Et parce que tu crois, Dieu va démontrer cela en toi, en esprit. Et tôt ou tard, ça sera visible. Marc 11, 24, tout ce que vous demandez en prière, croyez que vous l'avez obtenu et vous le verrez s'accomplir. C'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas par les yeux. Mais une démonstration comment alors? Parce qu'on sait tous que quand on dit démonstration, donc c'est qu'on a montré aux gens quelque chose. Mais une démonstration comment? une démonstration en esprit. Donc en esprit, tu as déjà, tu vois, tu sens, tu reçois, tu as la paix par rapport à ce que tu as réclamé à Dieu. Et nous ne voulons pas cette marche de l'esprit, en esprit. Nous voulons les signes visibles pour soutenir notre foi. Dieu dit non. Je vous ai sauvé pour la démonstration en esprit. Comme ça, vous êtes même plus fort. Le plus fort dans le monde spirituel. Vous êtes le plus fort dans le monde spirituel, le plus fort dans le monde matériel, parce que vous dépendez de Dieu dans l'invisible et non pas des choses de la terre. Parce que si vous dépendez des choses de la terre, mais Satan vous aura. Il est le prince de ce monde. Il sait manipuler le monde pour vous impressionner. Mais si vous dépendez de Dieu, rien de ce qui est extérieur ne va vous déstabiliser. Parce que Psaume 51, verset 8, parce que la vérité de Dieu est au fond de votre cœur. Proverbe 83 nous dit quoi? Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Voilà. La vérité dans ton cœur, c'est ça qui va te produire les sources de la vie. Mais nous, on veut que les sources de la vie viennent de quoi? Des signes positifs extérieurs. Dieu dit, c'est pas ça, Thomas, c'est pas ça. Je te le fais pour cette fois. Mais c'était peut-être l'occasion pour Jésus d'en profiter, de montrer que il avait les signes, les marques dans les mains. Ainsi, ça nous sert de signe de victoire. Voilà, je le fais pour cette fois, Thomas. Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut fonctionner. Il faut fonctionner en esprit. Et tout ce que nous vivons en esprit, on en reçoit la démonstration en esprit. Marc 11, 24 nous dit, un jour, nos yeux physiques verront cela. Tout ce que vous demandez en prière, croyez que vous l'avez obtenu et vous le verrez s'accomplir. Mais il nous faut la démonstration en esprit. Hébreux 11, verset 1er. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Tu sais que ça viendra. Mais comment on obtient ça dans la prière? Par la foi, nous demandons la réalisation de la révélation de Dieu en nous. Et il finit par nous démontrer ça en esprit. Comme il a été dit d'Abraham, Dieu lui avait dit qu'il avait préparé une cité. Il est écrit qu'Abraham a vu ça en esprit. Il en a fait la démonstration en esprit. Ainsi, il pouvait mourir en paix. Parce qu'il a vu ça en esprit. C'est ça la foi. Mais aujourd'hui, nous ne voulons pas ça. Et on devient là. La proie facile des faux serviteurs, la proie facile de fausses doctrines, la proie facile aussi du diable. Ils nous volent nos victoires. On a une victoire et puis nous on se dit, mais tiens, il n'y a pas eu de mouvement, donc c'est une défaite et le diable en profite. Ce que tu confesses, c'est ce qu'il va, il transforme ça en défaite. Mais tiens, on a prié pour moi, mais il n'y a pas eu d'agitation. Est-ce que l'esprit est parti? Mais quand tu réfléchis comme ça, le diable dit, ah ben c'est bon, il n'a pas cru, moi je reviens. Hein, les gens vont dire, oh mais comment ça, oui? Lisons 1 Jean 5, 4. 1 Jean 5, 4, ça dit quoi? 1 Jean 5, 4. Il est écrit ceci dans 1 Jean 5, 4. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est notre foi. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Malheureusement, aujourd'hui, les gens sont nés de Dieu, mais ils veulent fonctionner selon le monde. Tout ce qui est né de Dieu est supérieur au monde. Ça veut dire devant toi la nourriture, les biens de ce monde, le physique. Tu reçois une vie qui est au-dessus de ça. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons l'inverse. Dieu, donne-moi le physique. Dieu, donne-moi le physique. Dieu, donne-moi le physique. Ainsi, je sais que tu es Dieu. Dieu, donne-moi le physique. Ainsi, je sais que tu es Dieu. Mais Dieu dit, mais moi, je t'ai sauvé pour des choses supérieures au physique. Thomas, crois! Arrête de chercher à voir, crois! Bien-aimés, nous préparons une prédication où nous allons montrer comment Dieu il se fait voir toujours dans la gloire. Il est vivant. C'est ça la différence entre Dieu et le faux Dieu. Lui, il est vivant. Il fait la démonstration. Tu doutes, tu vas voir qu'il est Dieu. Mais il ne veut pas qu'on fonctionne par le visible. Il veut qu'on fonctionne par l'esprit. En tant qu'enfant de Dieu. Joseph n'a-t-il pas vu? Il a fini par voir son songe s'accomplir 20 ans après. Ah oui! Puisque Dieu est grand, il est vivant. C'est pas un Dieu mort qui va vous dire des choses et qui va pas accomplir. Il va accomplir, mais c'est pas le sujet de notre prédication. Notre prédication, c'est comment nous devons fonctionner. Nous devons fonctionner, nous devons croire sans voir. C'est ça qui fait de nous des êtres supérieurs. Nous devons prier. Même si les choses sont difficiles, prier. Lutter dans la prière, faire la démonstration des choses dans la prière. Nous revenons sur Hébreux 11. Au verset 2, il est écrit, « Pour avoir possédé une telle foi, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. » Amen. Qu'est-ce qui fait des anciens des grands? Qu'est-ce qui fait d'Abraham un grand? Qu'est-ce qui fait de Moïse un grand? Qu'est-ce qui fait de Élisée un grand? Qu'est-ce qui fait de tous ces gens-là des grands? Parce qu'ils ont eu foi en Dieu. Est-ce que vous vous souvenez de la prophétie d'Élisée? La prophétie la plus troublante. Dans 2 Rois chapitre 6. Il y avait la famine. Une telle famine parce que le pays était entouré par les ennemis. Une telle famine que la tête d'un âne coûtait peut-être le prix d'une voiture. Et les gens vendaient cher les excréments d'oiseaux. Une telle famine que les gens ont fini par manger leurs propres enfants. Peut-être morts, je ne sais pas, mais ils ont mangé des humains. Et Élisée prophétise que le lendemain, donc en un jour, il va y avoir une telle abondance que le prix de 10 kilos de farine sera presque rien du tout. Alors, quelqu'un qui était là, il dit, « Ah, même si Dieu doit ouvrir les portes du ciel, une telle prophétie ne peut pas s'accomplir. C'est trop impossible. » Élisée lui a dit, « Tu verras cela s'accomplir, mais tu n'en profiteras pas. » Effectivement, on ne va pas relater le concours des circonstances. Le lendemain, donc en un jour, tout a basculé. On est passé de la famine la plus grave à l'abondance la plus totale. Le matin même, quand on dit en un jour, ce n'est même pas en un jour, en réalité, c'est environ en 20h, en 18h, le lendemain matin, il y avait une abondance de folie. À tel point que le peuple s'était amassé sur les portes de la ville en train de se distribuer les biens. Et dans cette cohue-là, dans cette bousculade, finalement, celui qui avait douté est tombé, on a marché sur lui, il est mort. Il a vu, mais il n'en a pas profité, parce qu'il avait du mal. Il cherchait un support à la prophétie d'Élisée. Il disait, mais ça viendra d'où? On veut un support pour que nous croyions en Dieu, en la parole. On veut un support. Soit j'ai beaucoup prié, soit j'ai été correct. Donc, c'est ça ton support, j'ai été correct. Mais bien aimé, ce n'est pas parce qu'on est correct que Dieu agit. Il agit parce qu'il nous aime. Il est tout puissant. Il est vrai qu'il exauce les pécheurs. Il exauce ceux qui font sa volonté. Il n'exauce pas les pécheurs. Mais ce n'est pas parce qu'il t'a exaucé que ça vient de ta droiture. C'est sa grâce toujours. Il est tout puissant. Mais nous, on veut un support. Mais qu'est-ce qui fait que Dieu va me donner beaucoup? Est-ce que je suis correct? Qu'est-ce qui fait que Dieu va me donner beaucoup? Est-ce que j'ai beaucoup prié? On veut un support. Dieu dit non. Si vous devez prier, si vous devez être correct, c'est par amour pour moi. C'est parce que vous êtes des créatures élevées. Vous savez, notre élévation, c'est la sainteté. On est pur. On a une autre nature, une nature qui ne dépend plus du physique. C'est ça notre élévation. Ce n'est pas avoir beaucoup de physique. Nous, les faux prédicateurs disent, mais non, si Dieu est avec nous, on sera les plus riches. On sera dans les meilleurs postes en politique. C'est faux! Dieu nous a sauvés pour autre chose, pour être au-dessus de tout ça. Ah oui, mais regardez, Joseph était premier ministre. Oui, mais Dieu l'a fait pourquoi? Pour confondre les gens, parce que Joseph était un étranger, mais il devient premier ministre comment? C'est juste pour montrer le miracle de Dieu. Mais c'est pas, il nous destine pas à être tous des premiers ministres. Il nous destine à vivre la vie du ciel. Comment Joseph pouvait tenir dans la pureté dans un pays étranger et étant un premier ministre? Mais il a tenu. C'est ça la puissance de Dieu. Quand on a voulu donner de l'argent à Daniel pour ses prophéties, l'explication de ses prophéties, est-ce qu'il a accepté? Non, il a dit, je ne veux pas de tout ça, Belshazzar. Moi, je vis en esprit. Quand on a voulu donner à Élie, à Élisée, l'argent pour la guérison, est-ce qu'il a accepté? Il a dit, non, Dieu me suffit. Ça ne veut pas dire que ces gens-là n'ont pas accepté les dons qu'on leur fait. Élisée, on se souvient, il a été hébergé, nourri par des gens. Mais c'est pas ça la question. C'est que là, il a été hébergé, nourri, puisque Dieu a envoyé ces gens-là pour lui. Mais faire comme une sorte d'échange, j'ai prié pour toi, j'ai fait ceci, maintenant tu peux me donner l'argent. Non, non, c'est Dieu qui fait grâce, c'est Dieu qui agit. Ces gens-là ont été reconnus de vrais serviteurs de Dieu à cause de leur foi, à cause de leur marche dans l'invisible. C'est ça qui fait d'eux des grands. Aujourd'hui, on veut être grand par nos possessions, par nos succès, alors qu'on est grand par notre détermination à vivre dans l'invisible avec Dieu. Verset 3, après on va lire un passage remarquable. Verset 3, c'est par la foi que nous reconnaissons quoi? Que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Amen, 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 amen. C'est-à-dire, Dieu nous dit, ce que vous voyez là, ce que vous aimez là, ce à quoi vous vous accrochez, ce que vous cherchez là, mais ça a été créé de l'invisible. Pourquoi vous voulez vous accrocher aux conséquences? C'est comme si tu veux t'accrocher au fruit au lieu d'accrocher à l'arbre. Normalement, soyez intelligent, accrochez-vous à l'arbre, parce que le fruit, c'est l'arbre qui l'a produit. Nous, on s'accroche au fruit. Mais quand tu l'as mangé, c'est fini. Accroche-toi à celui qui produit le fruit. C'est l'invisible, c'est la foi, c'est la marche avec le Seigneur, dans l'invisible. C'est ça qui va tout produire le reste. Bien-aimés, nous ne sommes pas en train de dire que Dieu ne produit pas, Dieu ne guérit pas. Au contraire, nous sommes tellement sûrs de ça que même si nous ne voyons pas, nous continuons à prier dans ce sens-là. Parce que nous sommes très sûrs qu'il va faire de grandes choses. C'est pourquoi nous n'attendons pas de voir, parce que nous sommes très sûrs. Il nous s'est révélé à nous dans sa parole, nous le savons. Il va le faire. D'ailleurs, ça va avoir pour quelles conséquences? C'est qu'on va prier jusqu'à ce que ça se manifeste. Alors que ceux qui cherchent des signes, ils finissent toute leur vie, soit à ne rien faire parce qu'ils n'ont pas eu des béquilles, des signes pour les encourager à continuer, soit ils finissent dans les fausses doctrines, dans les mélanges avec le diable qui les trompe par des signes trompeurs. C'est ça leur fin, c'est dans le faux, parce qu'on veut à tout prix toucher, on veut à tout prix voir. Et on utilise certains versets en disant, oui, Paul a dit, j'étais venu au milieu de vous, Dieu m'a utilisé par des démonstrations. Oui, qui a utilisé Paul? C'est Dieu. Quand les gens vous disent ça, vous dites, oui, c'est Dieu qui fait les miracles, c'est pas nous. Au lieu de nous blâmer, parce qu'ils nous le disent en nous blâmant. Ah oui, mais Paul dit ceci. Mais oui. Non, si on attend que Dieu fasse, on ne va pas les inventer. On ne va pas inventer le visible. On ne va pas inventer l'argent pour qu'on ait une grande salle, pour qu'on croit que Dieu est avec nous. Non. C'est Dieu qui l'a fait avec Paul. Eh bien, qu'il le fasse avec nous. Et on est prêt à attendre, parce qu'on sait qu'il le fera. On refuse de couper l'attente par la soif de visibilité. Comme Joseph a voulu couper la tente en se servant d'un homme, ça n'a pas marché. Comme Dieu était avec lui, il l'aimait tant, il n'a pas voulu le laisser se tromper. Et Dieu nous aime beaucoup. C'est pourquoi il nous donne cet enseignement. Marcher dans l'invisible. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. Dieu a parlé et l'univers a été créé. Tout ce qu'on voit. Alors attache-toi à la parole. Toi, tu veux t'attacher aux songes, aux prophéties. Aux... Oui, bien-aimé, tout ça doit être filtré par rapport à la parole. Attache-toi à la parole. Toi, tu veux t'attacher aux cadeaux, aux ceci. Non, on s'attache à la parole. Et la parole produira le reste. Au nom de Jésus-Christ. Romains 4. Le papa de la foi, le père de la foi. Qu'est-ce qu'il est dit de lui? Romains 4, verset 17. Il est dit ceci. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Ça, c'est Dieu qui dit à Abraham. Maintenant, Paul explique. Abraham est notre père. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Amen. Dieu appelle les choses qui ne se voient pas comme si ça se voyait. Et il veut qu'on l'imite. Qu'on appelle les choses qui ne se voient pas comme si ça se voyait. Et qu'on croit et qu'on attende. Qu'on ne se fabrique pas de signes pour continuer, mais qu'on croit. Espérant, verset 18 qui nous intéresse le plus, espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, c'est-à-dire nous tous, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Donc, il a cru contre toute espérance. Comment on le sait? On va lire la suite. Regardez ce qui se passe chez Abraham. Un jour, un frère m'a arrêté en chemin. C'est un frère que je rencontre souvent, de temps à autre, une fois par an à Rouen. En chaque fois, il a une parole pour me fortifier. Je le rencontre en chemin. Il me dit ce que je veux lire là. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Est-ce que vous vous rendez compte? Il m'a dit ce frère-là. Il m'a dit, frère, Abraham avait deux problèmes. Non, trois. On dit, oui, Abraham a eu la foi, mais il dit, mais c'est une foi terrible. Rappelle-toi, frère, qu'il est dit qu'il était usé de corps. Son corps était déjà usé. Sa femme, de même. Sa femme avait deux difficultés. Elle était stérile quand elle était jeune. Elle n'était pas stérile par son âge. Depuis qu'elle est jeune, elle est stérile. Maintenant, elle a une deuxième stérilité due à l'âge. 80 ans. Vous le savez quand même, ça. Maintenant, ce frère-là me dit, mais tu te rends compte que cette femme-là a eu un enfant. Mais je le savais, mais quand il m'a parlé, j'ai dit, mais c'est vrai. Il dit, mais c'est pour ça qu'on appelle Abraham le père de la foi. Deux corps usés. Non seulement usés avec un problème, parce qu'ils n'avaient pas d'enfant même quand ils étaient jeunes. Mais ils ont eu un enfant. C'est écrit, verset 20, « Il ne douta point par incrédulité » au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié, comment? Par la foi, bien-aimé, donnant gloire à Dieu. La foi donne gloire à Dieu. Dieu dit, quelqu'un, il m'a compris. Je n'ai rien fait, mais il croit en moi. C'est pourquoi Pierre dit, vous êtes heureux, vous qui croyez sans l'avoir vu. Vous êtes heureux. Vous n'avez pas vu Jésus, vous croyez en lui comme ça? Je crois que Pierre était surpris de voir la conversion des chrétiens. Il était surpris de voir que il y avait parfois des chrétiens plus attachés à Jésus que lui, alors que lui, il a vu Jésus et ils ne l'ont pas vu. Il était surpris, il dit, mais comment vous pouvez croire en lui sans l'avoir vu? Mais vous êtes bien heureux. Vous êtes vraiment dans la ligne. Pierre se souvenait de ce qu'on avait dit à Thomas. Heureux ceux qui ont cru sans voir. Mais aujourd'hui, on veut toucher, on veut voir, on veut des signes positifs. Revenons bien-aimés à la parole. Nous sommes en train de construire le véritable peuple de Dieu qui va fonctionner dans l'invisible, qui va attirer la grande gloire de Dieu. Car quand on fonctionne ainsi, on attire la grande gloire de Dieu. La foi attire Dieu, la véritable. Et c'est ce qui a fait d'Abraham le père de la foi. Vous voyez, là où c'était la difficulté de d'Abraham, c'est là où on l'élève le plus. Donc sa difficulté, c'était quoi? L'enfantement, non? Mais c'est là où on fait de lui le père de beaucoup de nations, comme notre nom par la foi. Au fait, Dieu va vous prouver. C'est pas notre prédication d'aujourd'hui. Mais Dieu va nous prouver, il va nous montrer. Mais en attendant, il veut qu'on marche par la foi. Verset 21. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Amen, 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 amen. Ce que Dieu promet, il peut l'accomplir. Pourquoi toi tu veux forcer? Pourquoi tu veux inventer la puissance de Dieu? Ce qu'il a promis, il peut l'accomplir. Lui-même. Pourquoi manipuler les gens? Non. Bien aimé, ces choses-là que je suis en train de dire, je ne me sens même pas digne de le dire. Je ne me sens pas à ma place. Je dis pas ce que Dieu l'a voulu ainsi. C'est des choses élevées. C'est des choses élevées. Croire en Dieu comme Abraham, c'est exceptionnel. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Et Dieu l'a considéré juste parce qu'il a cru. Paul dit dans un autre passage, Abraham n'était pas un type correct, puisqu'il a pris une autre femme, Ketura, il a fait des trucs. Mais il a dit, mais il a eu foi en Dieu. Et c'est Dieu qui rend correct lorsqu'on a foi en lui. Jacques nous dit ceci. Quelqu'un d'instable, Jacques chapitre 1, 23, 24, c'est quelqu'un qui se regarde dans le miroir et quand il a fini, il ne sait plus qui il est. Donc Jacques 1, 23, 24. Il est dit ceci. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui vivent avec leur miroir. Ils ont obligé... Vous savez, qu'est-ce que Jacques veut dire? C'est-à-dire que cette personne-là ne sait plus que c'est lui. Il lui faut toujours un miroir pour savoir que c'est moi. C'est moi. C'est comme si quand il s'est vu, quand il a quitté le miroir, il ne sait plus que c'est lui, que la personne qu'il avait vue dans le miroir. Il pense peut-être qu'il est quelqu'un d'autre. Il lui faut toujours le miroir pour dire, ah, mais tiens, c'est encore moi. Donc il y a des chrétiens qui ont besoin des signes de Dieu toujours pour dire, ah, mais Dieu est encore là. Dieu est encore là. Dieu est encore là. Mais Dieu dit, mais non, je suis là une fois pour toutes. Dieu ne répond-il pas à ce genre oui, de temps à autre, il fait quand même des signes à ces gens-là, comme il a fait à Thomas. Mais il dit, mais c'est pas comme ça que ça doit se faire. Il faut croire. Prions que le Seigneur nous donne la véritable foi qui va fonctionner dans la révélation qu'il a faite, la parole, dans la révélation qu'il a déposée déjà dans nos cœurs. Servons-nous de ça pour prier afin que cette révélation s'accomplisse. Comme Jacques a dit, si vraiment tu as vu que c'est toi, tu crois que c'est toi et que tu commences à fonctionner. Si vraiment nous croyons que la révélation de la parole de Dieu est vraie, nous devons fonctionner avec ça. Même si nous ne voyons pas, la parole nous dit que les choses invisibles, c'est ça qui produit le visible. Donc, nous construisons dans l'invisible par la prière et par la parole de Dieu. Le Seigneur va nous mettre en phase avec lui. Comme Abraham, nous allons voir les choses à distance et nous allons les confesser pour la suite. Et Marc 11, 24 nous dit, nous verrons cela s'accomplir. Mais que personne ne nous freine sous prétexte que nous ne voyons pas. Nous ne voyons pas, mais cela est possible parce que c'est écrit. Amen. Seigneur, nous venons prier que tu mettes en nous, comme David dit, que tu mettes en nous ta sagesse. Que tu mettes en nous ta sagesse. que tu mettes la vérité au fond de nos cœurs, une fois pour toutes, que Jésus, tu existes, que tu es Dieu, que tu es mort à la croix pour nos péchés et que tout est accompli, que cette vérité-là soit déposée au fond de nos cœurs. Ainsi, nous serons des chrétiens réellement forts parce que la vérité, les sources de vie jailliront de notre cœur et non pas des choses visibles, et non pas des choses qui nous entourent, et non pas des bonnes nouvelles ou des mauvaises nouvelles, mais du fond du cœur, la vérité de ta parole. Ô Seigneur, que nous puissions nous attacher à la marche dans l'invisible comme Abraham, par la foi en ta parole, marcher en fonction d'elle, prier en fonction de ta parole. Et lorsque nous ne sommes pas en paix, continuer à prier jusqu'à ce que nous soyons en phase avec toi, et que la parole devienne évidente pour nous, Seigneur. Que nous ne cherchons pas à prier comme une sorte de béquille, mais que nous prions parce que nous croyons que ce que tu dis est vrai. Alors nous pouvons prier pour cela, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta présence. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Au nom de Jésus.